Bienvenue aux Apatrides Anonymes, votre émission bi-hebdomadaire sur les enjeux de... Non, bimensuel, pardon, je commence en lion. Donc, sur les enjeux de racisme, sécurité nationale et frontières, 22 août, 18h30, en direct des studios de choc.ca, après une émission... de congé il y a 2 semaines. Nous sommes de retour après 4 semaines. Je suis en compagnie de Marie-Ève. Bonjour.
Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde.
Simon est là aussi.
Allô.
Allô Simon. Mon nom est Mathieu. Donc, les Apatrides Anonymes pour 1 heure de contenu sur l'actualité, entrecoupé de pièces musicales d'intérêt. C'est en direct. Vous pouvez nous écouter évidemment en balado toutes nos émissions. C'est la 11e aujourd'hui sur la page de choc.ca Apatrides Anonymes. Donc, au menu aujourd'hui, nous avons actualité internationale en 2 parties. Plus tard à l'émission États-Unis et dans quelques secondes Europe et alentours avec Marie-Ève. Nous aurons aussi la minute coloniale avec Simon et les actualités québécoises et caquistes avec Simon aussi. Et dans quelques 10-15 minutes, nous aurons aussi une entrevue avec Richard-Alexandre Laniel de l'Association des juristes progressistes sur un jugement historique qui a eu lieu sur les travailleurs migrants et l'assurance chômage il y a quelques semaines. Donc, ben voilà, on va écouter quelques notes de musique, quelques instants de musique, et on revient avec Marie-Ève et l'actualité en Europe et autour. L'ami qui est au micro pour les actualités internationales, Europe et alentours. Je te laisse le micro.
Oui, en fait, on va se tenir beaucoup autour de la mer Méditerranée.
Point chaud ces temps-ci.
Oui, pas mal. Très chaud, oui. Mais on va commencer un peu par l'Italie, quand même, qui est un peu un incontournable. Au début du mois d'août, peut-être certains d'entre vous en avaient entendu parler, l'Italie a adopté un décret ouvertement anti-immigration, avec des amendes records pour ceux et celles qui leur viennent en aide, poussant évidemment toujours un peu plus loin la criminalisation de la solidarité. Le nouveau texte de loi a été adopté par une forte majorité, c'est-à-dire 160 voix pour et seulement 57 contre. En fait, le vote a été beaucoup aidé par l'abstention des partisans de Silvio Berlusconi et de la formation d'extrême droite Fratelli d'Italia. Ce décret était parrainé évidemment par l'homme fort de la Ligue du Nord, Matteo Salvini, qui est mon toc à moi.
Ton préféré.
Mon préféré, ouais, toi c'est François Legault, moi c'est moi Matteo Salvini. le décret donc prévoit, comme je le disais, des amendes records de 150 000 à 1 million d'euros pour les bateaux de sauvetage d'ONG en Méditerranée et jusqu'à 10 ans de prison en cas de résistance. Bon, tout ça, ça n'a pas empêché les ONG de quand même poursuivre leurs opérations de sauvetage en mer. D'ailleurs, mardi dernier, en fait, une décision de justice a permis aux personnes migrantes qui étaient à bord du navire humanitaire L'Open Arms d'enfin débarquer sur l'île italienne de Lampedusa après une attente de 19 jours au cours de laquelle les conditions s'étaient vraiment sérieusement dégradées, à un point tel que la même journée, il y a 15 personnes qui, certaines même sans gilet de sauvetage, qui se sont jetées par-dessus bord pour tenter de rejoindre Lampedusa à la nage. Donc, le bateau comptait 147 migrants quand il est arrivé près de Lampedusa et un peu plus de 80 après l'évacuation des migrants qui avaient sauté à l'eau mardi et de un peu avant ça, de plusieurs dizaines de mineurs ou de personnes malades. Donc, dans la décision de justice, le procureur a néanmoins ordonné de mettre préventivement sous séquestre le bateau dans le cadre d'une enquête pour séquestration de personnes, omission et refus d'actes officiels qui pourrait en fait viser indirectement le décret adopté au début du mois parce que certains juristes affirment que les articles 1 et 2 portant sur l'interdiction d'entrer dans les eaux italiennes pour les navires de secours pourraient constituer une violation de la Constitution. Donc ça pourrait peut-être être le premier acte en fait d'une certaine contestation là, de ce décret. À l'heure actuelle, il resterait plus qu'un seul navire au large des côtes libyennes, l'Ocean King, qui est un
Viking.
Bateau qui...
Ouais? Viking.
Viking, oui, tout à fait. Merci, Mathieu. Ocean Viking, donc, qui est un bateau affrété par les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, qui cherche lui aussi à débarquer dans un port sûr, 356 migrants. Là, actuellement, il est au nord-est de Malte. Bon, faute de consensus européen pour accueillir les migrants secourus par les navires d'ONG, leur sort fait régulièrement l'objet de longues et difficiles négociations entre les États. Par exemple, les migrants de l'Open Arms s'étaient vus refuser l'accès de l'île par les autorités italiennes, même si 6 pays européens, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, le Luxembourg, le Portugal et la Roumanie, ainsi que l'Espagne, s'étaient engagés à les accueillir. Mais l'Italie n'est pas le seul pays à prendre des mesures de plus en plus draconiennes pour freiner l'immigration. On reste toujours autour de la Méditerranée. Par exemple, en Turquie, à la fin du mois de juillet, la police avait arrêté plus de 6000 migrants en 2 semaines, dont une majorité de Syriens vivant à Istanbul de manière irrégulière. C'est la première fois que la Turquie prend de telles mesures, alors qu'elle accueille depuis 8 ans plus de 3,5 millions de Syriens, dont près de 1,5 million sont à Istanbul. Des non-Syriens sont aussi concernés par cette vague d'arrestations-là. Pour eux, une arrestation signifie une expulsion pure et simple. Et donc, plus de 6 000 personnes arrêtées, il y en aurait 2 600 qui sont d'origine afghane. Il faut dire que les arrestations témoignent un peu de la fragilité du statut des Syriens en Turquie. Parce que légalement, ils ne sont pas considérés comme réfugiés vraiment. Ils sont considérés comme étant sous protection temporaire. C'est un statut qui leur offre certains droits, mais qui les oblige aussi à résider dans la province où ils ont été enregistrés. Fait que là, présentement, la préfecture d'Istanbul a même lancé un ultimatum aux Syriens qui vivent dans la métropole alors qu'ils sont enregistrés dans une autre province. Ils avaient jusqu'à il y a 2 jours là, pour quitter Istanbul. Donc, on verra là, ce qui se passe avec eux.
Oui, il y a un système de province. Hein. On est attitré selon l'endroit où on est arrivé en premier en Turquie.
Ouais. Non, ouais. Et bon, évidemment, comme ailleurs, les migrants en Turquie font les frais à la fois de politiques populistes et servent de bouc émissaire pour... c'est dans un contexte économique et social très difficile avec un chômage élevé, une inflation galopante. Beaucoup d'observateurs font d'ailleurs un lien entre le renforcement des mesures anti-immigration et la défaite du parti du président Erdogan lors des élections municipales en juin à Istanbul en juin dernier. À ce moment-là, l'accueil des Syriens s'était imposé comme un sujet majeur de préoccupation et des violences anti-réfugiés sans précédent avaient même éclaté fin juin dans un arrondissement d'Istanbul. Donc, la politique de porte ouverte a vraiment, là, ben, de porte ouverte entre guillemets, là, mais ce qui était
traditionnel,
d'accueil et protection. Pratiquée pendant des années par les autorités d'Ankara fait l'unanimité contre elle. Donc, ce qui rend la situation d'autant plus tendue pour les personnes immigrantes, particulièrement les Syriens en Turquie. Toujours autour de la Méditerranée.
Peut-être,
mais...
Maria, si je peux te couper 2 secondes. Je sais qu'il y a des Syriens qui ont été carrément renvoyés en Syrie aussi à travers ces vagues-là. J'ai lu ça dans d'autres articles. Et ce qui avait été promis, c'est qu'ils seraient arrêtés parce qu'ils ne sont pas dans la bonne province et ramenés dans la bonne province en Turquie. Mais là, il y en a qui ont carrément été renvoyés à Idlib, qui est la seule zone qui n'est pas contrôlée par le gouvernement syrien, qui est une zone de guerre actuellement.
Ouais.
Il y a des preuves qu'il y en a qui ont été quand même renvoyés de Turquie à Idlib, ce qui avait dit qu'ils ne feraient pas, puis qu'ils ont fait quand même.
Ouais. Non, effectivement.
Parenthèse.
Ben, ça fait quand même, mais c'est intéressant que tu mentionnes ça, parce qu'effectivement, ça fait un peu un lien avec ce que je voulais aborder un peu en conclusion, c'est que lors de notre dernière émission, le 25 juillet, on s'était penché sur les conséquences réelles du durcissement des mesures anti-immigration aux États-Unis, mais pour les personnes migrantes. Alors là, au moment, tu sais, où les opérations de secours ont été entravées au cours des derniers mois en Méditerranée, il y a une série de naufrages meurtriers qui ont eu lieu depuis le mois de mai. Mm-hmm. Même si on compte la moitié moins de morts que l'an dernier à pareille date là, en Méditerranée, il en reste pas moins que c'est 683 personnes qui ont perdu la vie depuis le début de l'année en Méditerranée en tentant de joindre l'Europe. En Tunisie, au cours des dernières semaines, Il y a plus de 80 corps qui ont été repêchés sur les côtes entre deux villes portuaires, là, c'est-à-dire la ville de Zarzis et l'île touristique de Djerba, qui est dans le sud du pays, à quelques kilomètres seulement, quelques dizaines de kilomètres seulement de la frontière avec la Libye. Tous les corps qui ont été repêchés ont été envoyés vers l'hôpital de Gabès, qui est le seul, en fait, de la région qui est capable d'effectuer des prélèvements d'ADN. Parce que, par humanité et sous la pression de la société tunisienne, les autorités ont commencé à prélever de plus en plus systématiquement l'ADN des personnes migrantes non identifiées, parce que ces prélèvements-là représentent le seul espoir, en fait, que des proches puissent un jour retrouver leurs traces. Donc, dire ici que le dicton « loin des yeux, loin du cœur » prend un sens tragique serait vraiment un euphémisme.
Merci Marie-Ève. Et mon fétiche en passant, c'est Simon Jolin-Barrette. Hein?
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, c'est pas François Legault. J'aime mieux les jeunes quand même. On va à quelques notes de musique et on reçoit Richard-Alexandre Laniel de l'Association des juristes progressistes dans quelques instants. À l'émission des apatrides de Zananime sur les ondes de choc.ca, pardon. Donc, de retour à l'émission avec une entrevue, avec un invité, Richard-Alexandre Laniel de l'Association des juristes progressistes. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Ça va bien?
Oui, merci.
Ça merci d'être aussi là. Ben oui, certainement. On avait envie de t'inviter en lien avec un communiqué qui est sorti au mois de mai, une décision de cour qui est sortie au mois de mai, qui n'a pas été beaucoup couverte par les médias, à moins que je me trompe. Là, je l'ai pas vu beaucoup.
Il y a eu deux, trois articles, effectivement, là, mais pas des tonnes.
Pas des grandes manchettes. On s'est dit, à l'émission, ça pourrait être intéressant, même si c'est un peu technique quand même, d'expliquer un peu c'est quoi ces enjeux-là, parce qu'on parle souvent des travailleurs migrants, on parle souvent de la loi sur l'immigration, en lien avec le travail. Donc, on s'est dit, une décision quand même qui est qualifiée de victoire historique dans le communiqué, conjoint du Centre des travailleurs immigrants, du MAC Montréal, Mouvement Action Chômage, et de ton association, et qui concerne l'assurance chômage.
Exactement.
Donc, peux-tu nous dire, en gros, c'était quoi la cause que vous aviez?
Oui, absolument. Donc, on parle d'une problématique qu'on constate depuis de très nombreuses années, à savoir la détermination du statut d'emploi, la notion d'emploi assurable en vertu de la loi sur l'assurance-emploi, qui est quand même une condition fondamentale pour avoir accès justement à des prestations d'assurance-emploi. Et une des conditions pour qu'un emploi soit considéré comme étant assurable, c'est le fait qu'il doit y avoir ce qu'on appelle un contrat de louage de service, ou autrement dit, un contrat de travail. Donc, il faut que la personne qui fait une demande de chômage soit considérée comme une salariée, une personne salariée, tout simplement.
Donc, elle est cotisée aussi, j'imagine.
Pas nécessairement qu'elle est cotisée, mais il faut qu'elle ait le statut légal de salarié. C'est pas le terme qu'on utilise dans la loi, on utilise vraiment la loi de contrat de louage. Dans la loi, on utilise le terme de contrat de louage de service, mais ce qui est quand même...
Ça fait un peu féodal comme terme.
Absolument. Dans les lois fédérales, c'est toujours un problème qu'on a. C'est souvent des vieilles lois qui ont été traduites, retraduites, donc là, on se retrouve avec des termes qui sont toujours un peu particuliers, je veux dire. Mais peut-être que c'est un terme qui est plus honnête par rapport à la nature du salariat, par rapport à d'autres aussi. C'est peut-être une question qu'on peut se poser. Et donc, ça pour dire que cette notion-là de contrat de louage de service, au fil du temps, il y a eu des décisions qui sont venues dire que des travailleurs, par exemple, migrants sans permis de travail valide, n'ont pas un contrat de travail valide ou un contrat de louage de service valide en raison du fait que ils ont exécuté leur travail dans des conditions illégales. là je coupe les coins ronds là, mais en gros, étant donné qu'ils ont violé la loi sur l'immigration, ils auraient plutôt violé la loi sur l'immigration et sur les réfugiés en ne travaillant pas avec un permis de travail valide, ça viendrait également invalider le contrat de travail, ce qui aurait pour conséquence que il n'aurait pas de reconnaissance, si on veut, du travail, des heures qui auraient été travaillées dans le cadre de ce travail. Or, on sait que pour pouvoir avoir droit au chômage, il faut des heures assurables. Donc,
Oui. Et dans ce cas-ci, c'était un groupe de travailleurs guatémaltèques.
C'est ça. Qui, dans le fond, à l'époque, ce qui s'était passé, c'est que il avait d'abord travaillé pour dans le cadre du programme du PTET, donc programme de travail étranger temporaire. Ils avaient donc eu accès, dans le fond, à un emploi, étaient venus au Canada pour cet emploi-là, et pour la plupart, insatisfaits des conditions de travail qui peuvent être souvent absolument dégradantes, notamment dans l'industrie avicole, là, tout ce qui a rapport au poulet, notamment. Ils ont été, si je peux dire, maraudés, carrément maraudés par une agence de placement avec des intentions qui étaient tout à fait douteuses. Et ils sont allés travailler.
C'est le cas qu'a fait les médias, entre autres, dans la région de Victoriaville. Est-ce que c'est celui-là?
Oui, effectivement. Okay. C'est celui de Victoriaville. Parce qu'il y a une autre agence de placement douteuse qui a fait les manchettes récemment dans le coin de Sherrington.
Oui, mais ça, c'est il y a un an et demi, exactement.
Et donc, ça pour dire que, donc, ils ont été maraudés ou recrutés pour cette entreprise, cette nouvelle entreprise-là. Par contre, les permis de travail pour le PTET, ce sont des permis de travail qui sont fermés. Mm-hmm. Donc, on a seulement le droit de travailler
pour un employeur
seulement. Ouais. Donc, eux, ils sont allés travailler pour un autre employeur, sans autorisation quoi que ce soit, ce qui a fait en sorte qu'on a considéré que c'était un travail irrégulier, sans permis de travail valide. Et dans ces circonstances-là, quelques mois plus tard, bon, il y a toute une saga derrière ça également, là, mais quelques mois plus tard, quand ils se sont retrouvés en situation de chômage, ils se sont fait refuser leurs droits aux prestations de l'assurance chômage en raison du fait que leurs prestations de travail avaient été faites sans permis de travail valide, étaient donc illégal, et donc le contrat de travail est en lui-même invalide, ce qui retirait le droit à l'assurance-emploi.
Mais dis-moi, est-ce que quand les travailleurs temporaires migrants respectent, en guillemets, le contrat et travaillent pour le même employeur, ils ont le droit à l'assurance chômage?
Ils peuvent avoir le droit à l'assurance. Normalement, ils ont le droit à l'assurance chômage. Théoriquement.
S'ils restent ici.
Ouais,
c'est ça. OK.
Il y a eu une grosse décision de la Cour d'appel fédérale, Cruz de Jesus, où c'était justement des travailleurs migrants qui, eux, avaient fait des demandes de prestations spéciales pour paternité. Parce que dans le reste du Canada, il n'y a pas le RQAP, le Régime québécois d'assurance parentale, comme c'est le cas au Québec. Là, c'est vraiment l'assurance-emploi qui offre aussi des prestations spéciales de maternité-paternité. Et donc, avaient réussi à avoir justement des prestations spéciales de paternité parce que il n'y a pas la condition dans ce temps-là d'être disponible à l'emploi, comme c'est le cas lorsqu'on est en chômage dit ordinaire.
Ouais, tout à
donc,
fait.
Les prestations spéciales ne posent pas problème. Les prestations, éventuellement, il y a peut-être une lutte qui sera menée là d'ailleurs. Je souhaite éventuellement la mener, mais le fait que si on est en recherche d'emploi dans son pays d'origine, on ne devrait pas discriminer sur cette base-là. À partir du moment qu'on est en disponibilité, qu'on est en recherche d'emploi, on devrait avoir droit aux prestations également.
OK. Dans ce cas-ci, c'est la Cour canadienne de l'impôt qui a rendu la décision. C'est une cour d'appel, ça, ou c'est quoi?
C'est un tribunal administratif.
C'est ça.
Ouais. Donc, c'est un tribunal qui est excessivement méconnu.
Oui, tout à fait. Oui, ça m'a surpris, d'ailleurs.
C'est un tribunal administratif qui a pour juridiction principale, comme on peut l'imaginer, les questions relativement au fisc ou à l'impôt. Sauf que la loi sur l'assurance emploi vient prévoir que certains éléments qui ont rapport à l'assurabilité de l'emploi, donc justement le fait de pouvoir se qualifier ou non aux prestations d'assurance emploi, certains aspects de ça, c'est la Cour canadienne de l'impôt qui va avoir juridiction.
OK.
Et donc, dans le cas, par exemple, de l'assurabilité, donc la déterminer si on avait un contrat de travail ou pas, si le contrat était valide ou pas, c'est la Cour canadienne de l'impôt et non pas le tribunal de la sécurité sociale, qui est l'autre tribunal qu'on connaît un peu plus pour les questions relatives à l'assurance chômage.
OK, fait que c'était pas un choix d'aller vers ce tribunal administratif-là. C'était pas un choix stratégique.
Non, c'était une contrainte.
C'est prévu comme
Pas une contrainte, là, mais c'est prévu comme ça, effectivement. C'est dans la loi. C'est le recours lorsque... C'est l'Agence du revenu du Canada, d'ailleurs, qui rend les décisions relativement à l'assurabilité, non pas Service Canada ou la Commission de l'assurance-emploi qui rend ces décisions-là. Et ce sont eux, là, qui ont, donc on conteste la décision à la Cour canadienne de l'impôt.
Et cette fameuse victoire historique au niveau de la décision, c'est laquelle?
Oui, ben c'est que essentiellement au Québec, parce que dans le reste du Canada, ça faisait depuis 98 que la décision Kathleen Steele de la Cour d'appel fédérale avait déterminé que, en vertu d'une théorie en common law sur la légalité ou l'illégalité d'un contrat, dans certaines circonstances, quand les travailleurs sont de bonne foi, il est possible de reconnaître que même si il y a un permis de travail invalide, ils sont quand même assurables. Sauf que au Québec, vu qu'on est dans un contexte de bijuridisme, eh bien, on appliquait encore les théories de droit civil encore aujourd'hui, où est-ce que le contrat de travail est invalide à partir du moment qu'il était en violation avec une loi d'ordre public, comme la loi sur l'immigration et le statut de réfugié.
OK.
Donc, l'aspect qu'on considérait historique quand on a écrit le communiqué de presse, c'est cet aspect-là. C'est-à-dire qu'au Québec, encore aujourd'hui, on avait des personnes qui avaient travaillé, mais dont le permis de travail avait expiré ou sinon qui ne travaillaient pas pour le bon employeur, etc., qui même ne le savaient pas, même si c'était une erreur de bonne foi, se faisaient systématiquement refuser le droit aux prestations d'assurance-emploi. Et on le voit beaucoup d'ailleurs avec les personnes qui font une demande de statut de réfugié et qui prennent pour acquis qu'ils n'ont pas besoin de renouveler après leur permis de travail, du fait qu'ils sont demandeurs d'asile.
OK, tout à fait. Et donc, la Cour a basé sa décision sur... a donné quel résultat au niveau de... comment elle a défait la loi, finalement?
En ayant une approche civiliste. C'est pour ça que c'est une décision qui est particulièrement le fun.
OK.
Avec une analyse en droit civil, une réflexion très approfondie. Là, c'est une décision de 46 pages. Une réflexion très approfondie sur la notion d'intérêt public et d'ordre public et de conditions de nullité d'un contrat. Donc, en gros, le raisonnement de la Cour, c'est de dire que oui, effectivement, la loi sur l'immigration et le statut de réfugié vient protéger l'intérêt public lorsqu'il vient dire que toute personne doit travailler avec un permis de travail valide. Mais où la Cour canadienne d'impôt crée une particulièrement une brèche, c'est par rapport au fait que la loi sur l'assurance-emploi vient protéger l'intérêt public. Et c'est aussi d'ordre public que les gens aient droit aux prestations d'assurance chômage, de un. Et de deux, les gens qui viennent ici dans le cadre de programmes tels que le PTET, par exemple, le programme des travailleurs étrangers temporaires, doivent être protégés par l'ordre public également. C'est pas vrai que à partir du moment où est-ce qu'ils ont travaillé sans qu'ils aient rempli l'exigence légale du permis de travail, ça doit nécessairement être sanctionné par une nullité du contrat. Donc, ce que le juge vient dire, c'est que dans le cas présent, l'intérêt public était, vu que ces personnes-là s'étaient faites arnaquer, s'étaient faites faire des fausses représentations, etc., etc., l'intérêt public était en faveur, si on veut, ou était l'idée, c'était de défendre l'intérêt de ces personnes-là par les systèmes, le régime d'ordre public tel que l'assurance-emploi, les systèmes de permis.
Puis est-ce que ça pourrait s'appliquer à d'autres travailleurs, travailleuses?
C'est l'objectif, oui.
Qui seraient peut-être pas victimes d'arnaque, mais qui auraient, pour toutes sortes de raisons, changé d'employeur, par exemple.
Absolument.
Ça pourrait s'appliquer, donc ça pourrait s'élargir à plus de monde.
C'est l'idée. Puis c'est ça qui est le fun avec cette décision-là, c'est que on vient parce que, bon, il faut savoir, petite parenthèse, là, en matière de lésions professionnelles, on a ce même genre de décisions-là qui ont commencé à émerger à partir de 2006. Et eux avaient vraiment appliqué à la Commission des lésions professionnelles, ils avaient vraiment appliqué le courant dont je vous parlais tantôt, donc l'arrêt Steele, donc en common law, ils l'avaient juste introduit, si on veut, en contexte de lésions professionnelles. Donc, il y avait toujours la question à savoir, est-ce que le travailleur était de bonne foi ou pas? Ce qui est le fun avec cette décision-là, c'est qu'on vient un peu tasser la question d'être de bonne foi ou de mauvaise foi. Et simplement dire, moi, c'est ce que je prétends, du moins, avec cette décision-là, c'est que, ultimement, c'est pas de savoir si c'est un bon ou un mauvais travailleur, c'est simplement de savoir est-ce que la personne avait droit ou non à ses prestations et jusqu'à quel point l'intérêt public général va être brimé, si on veut, si cette personne-là a finalement droit à ses prestations d'assurance-emploi. En résumé, là.
Oui. Puis d'ailleurs, j'ai lu dans votre communiqué que le juge disait que c'était le vieil article qui datait du temps où les Canadiens étaient en chômage de façon massive et avaient envie de travailler dans ce genre d'employeur que maintenant les Canadiens font de moins en moins, donc les travailleurs migrants qui viennent le faire.
Là. Cette décision-là est excessivement le fun pour ça aussi. C'est-à-dire, bon, le juge se permet un aparté en disant qu'il trouvait inacceptable, par exemple, la situation actuelle des travailleurs migrants qui trouvent qu'ils sont laissés pour eux-mêmes, sans ressources, sans soutien, bien et donc particulièrement vulnérable à l'exploitation de, mm-hmm. des entreprises agricoles, de un. Et de deux aussi, effectivement, là, il vient dire il faut cesser de voir les travailleurs migrants comme étant ceux qui profitent de nous. Et à l'inverse, comprendre que c'est plutôt l'inverse actuellement, c'est qu'on profite d'une main-d'œuvre qui permet à plusieurs industries au Canada d'être en mesure de pouvoir continuer à fonctionner, et que ce serait probablement pas le cas, n'eût été justement, de toutes ces personnes-là qui viennent travailler de façon saisonnière au Canada. Là.
Mm-hmm. Ce qui est le discours de beaucoup de groupes, d'ailleurs, de défense des droits, entre autres.
Absolument,
là-dessus.
Absolument.
Dis-moi, en terminant tranquillement, est-ce que ça pourrait servir de tremplin pour d'autres brèches dans différentes lois au niveau des droits des travailleurs migrants, par exemple au niveau, je sais pas moi, de la CSST, de différents autres programmes sociaux dont ils pourraient bénéficier?
Ben c'est l'objectif, effectivement. Là, jusqu'à un certain point, cette décision-là, le but, c'est qu'elle soit utilisée après dans d'autres contextes également. On considère que c'est quand même une avancée importante. Là. Et l'idée, éventuellement, ça serait, par exemple, en matière de lésions professionnelles, effectivement, mais même en matière de normes du travail,
normes
par
du
exemple,
travail, exactement,
parce
ouais.
qu'on a aussi la notion de salarié. Et où la jurisprudence n'est pas tout à fait claire, à savoir est-ce que les personnes qui sont sans permis de travail valide ont systématiquement droit à la protection de la loi sur les normes du travail. Donc, c'est le genre de décision qui vient consolider l'idée comme quoi, peu importe le statut, finalement, les lois qui sont de protection sociale doivent servir à la fonction auquel elles servent, c'est-à-dire la protection des personnes et particulièrement les groupes plus marginalisés ou vulnérables.
Exactement. Et est-ce que tu penses que l'assurance chômage ou le ministère des Ressources humaines, je ne sais pas c'est lequel ministère, peut aller en appel de ces décisions-là?
C'est trop tard.
Il est trop tard,
il est
okay.
trop tard. Il y avait eu 30 jours de la décision qui était rendue au mois de mai. Donc, oui, effectivement. Donc, maintenant, on prend pour acquis. Là. Et c'était assez intéressant parce que quelques semaines après la décision, il y a eu une annonce du gouvernement Trudeau comme quoi maintenant, il allait rendre un peu plus souple le permis de travail fermé et qu'il serait possible maintenant pour les travailleurs et travailleuses de faire une demande pour ouvrir le permis dans certaines circonstances.
Qui leur permettrait de changer d'employeur. C'est
exactement.
Ça?
Okay. Ouais. Exactement.
Mais le problème de fond, c'est que c'est quand même ces gens-là viennent pour quelques mois, doivent refaire une demande après, sont renvoyés. Il n'y a pas de suivi comme travailleur.
C'est clair.
C'est vraiment du travail assuré puis précaire. Là.
C'est surtout les employeurs, finalement, qui peuvent essayer de faire les démarches éventuellement pour garder une main-d'œuvre plus spécialisée, par exemple.
Oui, ouais, puis qui a le même statut que tous les autres travailleurs, finalement.
Exactement. Mais ouais. Oui, c'est l'objectif.
C'est assez évident. Ouais. Donc, en terminant, qu'est-ce qui est arrivé avec ce groupe de travailleurs guatémaltèques? Est-ce qu'on a des nouvelles d'eux?
Malheureusement, il y a eu toute une situation en parallèle avec leur recours en assurance emploi qui fait en sorte qu'il y en a une grande partie qui a dû retourner dans leur pays avec des interdictions de séjour.
De revenir à cause qu'il y avait changé d'employeur.
Exactement.
Encore l'arnaque.
Donc, autant on a eu une décision d'une grande, grande, grande humanité de la part de la Cour canadienne de l'impôt. Malheureusement, pour le reste du processus, il y a eu deux, trois.
Le ministère de l'Immigration, c'est autre chose.
Ouais, je pratique pas là-dedans, je connais pas vraiment, mais du moins au niveau du résultat, c'est clair qu'effectivement, là, on a une grosse partie qui a dû retourner dans leur pays. Puis les démarches au niveau de l'assurance emploi continuent.
Et les arnaqueurs courent toujours, j'imagine?
Bon, on essaie de se battre contre eux, okay. autant que possible, et qu'ils soient redevables.
Ouais, okay. Disons qu'on a le concept de bonne foi un peu large, hein? Ou en tout
dépendamment
cas,
du statut,
à deux
hein?
poids, deux ouais. mesures.
Ah, ben ça, c'est clair, c'est un des gros problèmes. La bonne foi est très flexible.
C'est ça.
Merci beaucoup, Richard-Alexandre Laniel de l'Association des juristes progressistes. C'était trop court, on aurait pu parler de plein de trucs. Tu reviendras, peut-être
avec
nous
plaisir.
Parler d'autres dossiers.
Avec plaisir.
Fait que merci à toi.
Merci beaucoup, merci.
Ben, fait plaisir. Et on va aller en musique avec le légendaire groupe Mise en demeure, la pièce Gaz de Schiste, et on revient avec les actualités caquistes québécoises de Simon.
Ici Mathieu Bocoté, et on remarque en ce moment qu'on a un grave problème politico-communiste au Canada, c'est qu'on laisse pas assez de place dans l'espace médiatique à mon ami Rob Ford, qui est le nouveau maire de Toronto. Alors, même s'il est un peu trop à gauche pour moi, j'aimerais lui laisser une tribune pour qu'il puisse s'adresser aux jeunes. Vas-y, mon Rob!
Je suis pour l'avortement des immigrants. Je veux éliminer la pauvreté avec un gun. Le mariage homosexuel, c'est une bien bonne idée. Ça va nous permettre de mieux les figer. Les gosses de schiste ont certains avantages, je pense.
Je suis d'accord avec toi,
que peuvent
Rob.
Pas nous offrir les énergies propres.
Gaz un pauvre, gaz un fit, gaz un juif, gaz un cycliste. Comme une racine d'eau pick-up en écoutant cette chanson pop. Gaz un pauvre, gaz un fit, gaz un juif, gaz un cycliste. Comme une racine d'eau pick-up en écoutant cette chanson pop.
Quelqu'un qui a pas peur de dire des vraies affaires, pas comme un américain d'ultra-gauche islamique.
Si ça avait été moi le maire pendant le sommet du G20, j'aurais envoyé en tôle pas mal moins de bons à rien. Parce qu'à l'instar de nos amis de gauche, j'ai une philosophie de l'action. Une balle de fusil coûte moins cher
qu'une cellule de prison.
Gaz un pauvre,
en grande obésité pour favoriser l'intégration des gros. Je m'apprends à interdire le vélo. Y'en a qui trouvent que je suis fasciste. Moi, je me dis plutôt progressiste. J'offre aux travailleurs de la loi de meilleures conditions d'emploi pour qu'ils améliorent leur rendement. Je rappe une fois de temps en temps. Faites la gueule d'un pacifiste. Voyons une petite féministe. Tirez au gun comme des outardes en écoutant cette chanson de marde. Faites la gueule d'un pacifiste. Voyons une petite féministe. Tirez au gun comme des outardes en écoutant cette chanson de marde. Cause un pro, cause un fils, cause un trip, cause un cycliste. Dans une race, un gros pick-up.
Toujours à l'émission des Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca. On vient d'entendre le légendaire groupe Mise en demeure, la pièce Gaz de Schiste, groupe phare des années 2010-2015 à l'UQAM, entre autres. On peut dire ça comme ça. Merci encore pour l'entrevue technique, mais très intéressante de Richard-Alexandre Laniel. Je vais passer le micro à Simon, mon collègue qui est en studio devant moi.
Eh ben oui.
Pour parler des actualités caquistées autour.
Attends, tu vas faire du temps pendant 20 secondes, je me suis trompé de papier.
OK, ben écoute, peut-être vous dire que en septembre, nous allons peut-être garder la même case horaire, peut-être pas, ça devrait être à vérifier, et aussi que nous serons absents quelques émissions en raison de vacances, et donc on vous tient au courant par notre page Facebook, vous pouvez vous informer là-dessus, et à la fin de l'émission, je vous répéterai les précisions, les dates précises pour la suite des choses. Donc, Simon, c'est bon papier?
Ben, je pense que oui, je vais y aller quand même.
Ou le bon laptop, hein, on ne sait pas.
Ah oui, je suis très techno, c'est ça. Non, pour vrai, c'est des papiers avec plein de flèches, plein de rayures. Donc, et oui, Mathieu, les actualités québécoises à l'émission des Apatrides Anonymes. Simon qui prend la relève de Mathieu dans qui avait l'habitude de s'asseoir dans ce confortable fauteuil caquisto-paroissial.
Provincialiste, en tout cas.
Parfois fédéral. Bref, on va rester dans le provincial pour les prochaines minutes, à l'exception d'une brève municipale pour commencer les nouvelles locales. La semaine passée, on apprenait que la Cour supérieure du Québec a autorisé un recours collectif contre la Ville de Montréal dans le dossier du profilage racial. Donc, la partie poursuivie, c'est la Ville de Montréal. Le recours concerne le profilage racial et non social ou économique pour les itinérants.
Politique, social, les itinérants, puis politique, les militants.
OK, c'est vraiment pour le profilage racial exercé par le SPVM. Donc, c'est assez précis. Quoique le nombre de dossiers ne manque pas non plus. Mm-hmm. Il s'agit d'une grande première, donc d'une décision qu'on peut qualifier d'historique, même si les modalités, les montants des compensations, ça reste à déterminer. N'importe qui a été l'objet de profilage racial par le SPVM peut porter plainte et passer par la Ligue des Noirs du Québec et ainsi joindre le recours collectif. Par contre, il faut que ce soit des événements récents. Il y avait deux catégories, mais dans certains cas, c'est des événements qui datent de moins de 2 ans.
OK.
Donc, on parle d'avoir été interpellé, arrêté ou détenu sans raison valable. Toutes les infos, je dirais d'aller auprès de la Ligue des Noirs du Québec. Je pense que pour l'instant, c'est la meilleure ressource pour obtenir les meilleures informations.
Pour s'inscrire au recours, on a besoin.
Pour oui, pour savoir comment faire, ils vont vous diriger avec plaisir. Donc, on va prendre la 20 ou la 40 maintenant et on s'en va à Québec où Mathieu a un certain fétiche, paraît-il, sur... on croyait tous que c'était François Legault, mais il semble que t'es au petit jeune.
Non, c'est le poulet.
Le poulain automate. On s'en va sur la colline parlementaire. Donc, notre automate préféré, le ministre de l'Immigration du Québec, Simon-Jolin Barrette, a annoncé la suite des choses dans la réforme du système d'immigration au Québec. Donc, après ARIMA, la plateforme défectueuse qui vise à arrimer les demandes de sélection aux besoins du patronat, on a annoncé, attention, le parcours d'accompagnement personnalisé pour les personnes migrantes. En gros...
Personne
immigrante, oui, excusez-moi. Oui, puis on n'a pas mis économique, on n'a pas mis main-d'œuvre, là, mais le nom officiel, parcours d'accompagnement personnalisé pour les personnes immigrantes. En gros, ça consiste en un peu plus d'argent annuellement pour le ministère et à l'embauche d'un peu moins d'une centaine d'agents qu'on va appeler agents d'aide à l'intégration. C'est presque ma voix
c'est
de
très beau, c'est très beau.
Qui, en gros, feront le même travail de traitement
deux centaines de dossiers chacun manuellement, ce que leurs collègues font déjà. Et surtout, le ministère va s'assurer, avant de délivrer un certificat de sélection, que le ou la candidate répond aux besoins du marché. Dans l'annonce de Jolin Barrette, on dit que la personne qui reçoit par la poste son certificat de sélection du Québec dans son pays, parce que ça concerne très souvent des demandes faites à l'extérieur du Canada, qu'elle pourra déjà commencer à apprendre le français en ligne, service qui existait déjà. On dit que le ministère va commencer les démarches sur les reconnaissances de diplômes, ce qui n'est pas du tout de juridiction du ministère de l'Immigration du Québec, et on souligne que la personne sélectionnée pourra s'informer sur divers aspects du Québec, genre consulter des sites web qui existaient déjà. Donc, beaucoup...
du ramaché.
Du ramaché, du remplissage que la plupart des grands médias ont retenu et ont retranscrit, je ne sais pas pourquoi.
Comme Arima, d'ailleurs, ouais.
Oui, comme Arima avait été lancé...
Par les libéraux.
Il a été relancé, je crois, parce qu'il y avait eu des bugs informatiques.
Mais c'était pas une invention,
C'était pas un projet caquiste. Donc, on annonce aussi l'ouverture possible d'un deuxième bureau d'accueil à Dorval, une récompense financière de 185 beaux dollars pour assister aux vidéos, pour visionner le vidéo Objectif Intégration produit par les ministères. Ça doit être vraiment passionnant. J'irai le voir. Je sais pas si
oui, tu me perds, Simon, tellement c'est passionnant. Écoute.
Oui, ben écoute, je te laisse à tes complaintes. On annonce aussi qu'on va surveiller les résultats de chacune en francisation. Bref, voilà toute une série de mesurettes qui démontrent qu'il n'y a pas vraiment eu de travail de réflexion très sérieux sur notre système d'immigration. Mais une conséquence qu'on verra probablement, une conséquence qui est très sérieuse, c'est que cet arrimage de plus en plus direct entre l'entreprise privée et la sélection des personnes immigrantes pourrait faire en sorte que ça privilégie les candidats francophones, européens et blancs. Ce qui ferait probablement plaisir à François Legault, qui avait dit lors d'une tournée européenne, juste après avoir annoncé une réduction de 35% des seuils d'immigration, qu'il voulait plus de Français, de Belges et de Suisses. C'est la table de concertation des organismes en service de personnes réfugiées et immigrantes qui exprime très bien cette crainte. Je vais ouvrir les guillemets. Elle exprime ainsi dans son mémoire déposé en commission parlementaire lors des consultations actuelles sur les réformes du système d'immigration au Québec. Donc, j'ouvre les guillemets. On craint d'observer une
homogénéisation.
Merci. Du profil des immigrants permanents de plus en plus francophones, européens et blancs. En laissant la sélection des candidats à l'immigration à la discrétion des employeurs et le biais des employeurs en la matière à l'égard des personnes immigrantes ayant été largement documentées, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une partie des candidats ne soit jamais sollicitée malgré leurs compétences à cause d'un profilage ethnique. Discrimination qui, selon les données actuelles, touche surtout les communautés noires et maghrébines. On note aussi dans ce mémoire que les diminutions prévues dans les catégories de réfugiés et du regroupement familial vont surtout toucher les femmes et les enfants. Je vais conclure sur un événement plutôt inusité à Québec. Lors de cette commission parlementaire où a été présenté le mémoire de la table de concertation,
il y a eu une
présentation qui a été plus remarquée, qui est celle de Jean-Nicolas Beuze, du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Donc, il faut faire quand même bravo à la CAQ d'attirer l'attention du Haut-Commissariat aux réfugiés qui s'inquiète de ce qui se passe actuellement au Québec en matière d'immigration. Donc, M. Beuze, assez éloquent et extrêmement bien documenté, en gros, il est venu dire à M. Jolin Barrette qu'il est faux, mais complètement faux, de prétendre que les réfugiés constituent un fardeau pour la société d'accueil. Qu'affirmer le contraire, c'est dangereux et démagogue, avec toutes sortes de données sur l'éducation, l'emploi et même l'achat de maison. M. Beuze a démontré que à terme, même assez rapidement, les réfugiés ne sont pas du tout un fardeau économique pour la société d'accueil. Donc, Simon-Jean Barrette s'est un peu énervé, ce qui n'était pas désagréable à voir, mais surtout, ce qui était frappant, c'était le contraste abyssal entre la teneur intellectuelle et la rigueur du discours de M. Beuze et la petite réaction effarouchée du ministre qui est resté sur la défensive sans être en mesure d'apporter un quelconque argumentaire. C'est ce qui met un terme aux actualités locales pour cette semaine. On va poursuivre dans quelques instants avec Mathieu.
Ben oui, je vais y aller avec l'agenda antiraciste dans quelques secondes. Parfait. Merci, Simon.
Ben, merci beaucoup. On est toujours sur choc.ca.
« Agenda antiraciste, antifasciste, l'actualité militante et communautaire et autres. Peut-être juste vous dire qu'aujourd'hui, il y avait une manifestation à Val-David. On est bien le jeudi 22 août contre l'entrepreneur Construction Tisseur qui a eu le super contrat de la prison pour migrants de Laval, la nouvelle prison. D'ailleurs, il a déjà commencé à travailler depuis le 5 août sur le site, malgré l'opposition de plein de groupes et plein de monde. Si ça vous intéresse, il y a déjà une vidéo de la manif qui était sur Internet tantôt sur la page Facebook de Solidarité sans frontières. Donc, et c'était le lancement, donc, cette manif-là d'un automne de mobilisation qui va se poursuivre, donc, jusqu'au 3 octobre, un mois et demi, disons, de mobilisation, fin de l'été, début de l'automne, jusqu'au 3 octobre où il y aura une journée d'action dans plusieurs villes au Québec. Donc, voilà, donc, vous savez de quoi je parle, la prison pour migrants de Laval, donc 138 millions pour l'ensemble de deux prisons au Canada, dont celle de Laval, et il y a eu beaucoup de mobilisation depuis quelques semaines, quelques mois, et aujourd'hui encore, il y avait près de 80 personnes qui étaient à Val-David, c'est assez rare quand même pour manifester contre le contracteur qui a eu le contrat pour la prison donc de Laval. Sinon, vous dire, dans l'agenda en tant que tel, le cinéma sous les étoiles se termine finalement la semaine prochaine, parce que normalement, ça aurait dû se finir cette semaine, mais, il y a eu quelques projections annulées à cause du temps plus ou moins incertain. Donc, il y a des reprises la semaine prochaine qui ont lieu donc à Montréal, dans différents parcs. Je vous en donne quelques suggestions. Le 26 août, au Square Cabot, c'est le film « Qu'est-ce que la démocratie » de Astra Taylor. Ça parle des liens dans le passé, le lien entre le passé et le présent au niveau de la démocratie en lien avec l'émotivité, l'intellectualisme, les enjeux personnels, politiques. On donne la parole à diverses personnalités. On espère que ce ne sera pas toutes des vedettes. Je pense que non. Donc, il y aura une discussion avec Marc-André Cyr, qui est spécialiste des mouvements sociaux après la projection. Donc, ça, c'est lundi le 26, 20h30, au Square Cabot. Ça vous intéresse, c'est en version, évidemment, en plusieurs langues, mais sous-titré français. Sinon, le lendemain, le 27, au chemin Guilford, donc près du métro Laurier, le film « Ceux qui viendront l'entendront », un film de Simon Plouffe, qui traite des... assez particulier comme sujet, assez pointu, mais ça a l'air intéressant, qui parle des derniers locuteurs de plusieurs langues autochtones au Québec qui sont menacés de disparition à l'heure actuelle. Il y aura un court-métrage de Manon Chamberlain et de Eva Koukaï en première partie. Donc ça, c'est le 27 août, au chemin Guilford, donc dès 20h15. Et il y aura aussi une discussion avec le cinéaste Simon Plouffe après la projection. Dire le 28 août, donc mercredi prochain, le film Anthropocène, l'époque humaine, un film par plusieurs réalisateurs du Canada, donc sur l'humain comme menace pour la destruction totale de la Terre, en résumé. J'y vois assez rapidement. En première partie, le film Acadiana va être présenté. Il y aura une discussion avec Patrick Bonnet de Greenpeace après. Donc, le 28 août, dès 20h30, donc au parc Tolhurst, c'est sur la rue Fleury. Je vous garderai peut-être une petite nouvelle pour la fin, un dernier petit truc, mais peut-être vous dire aussi que ça vous tente, demain, vendredi, le 23, toute l'après-midi, il y a un rassemblement devant les bureaux de Québecor, au Square Victoria, sur la rue Saint-Jacques, contre Richard Martineau. Donc, on dira en cœur tout à la fin de l'émission, ta gueule, Martineau!
Les apatrides anonymes vous présentent la Minute coloniale. Le saumon, ainsi que sa sœur du sexe faible, la truite, est un poisson fort espiègle. Sa chair rose et tendre est exquise. De tempérament fringant, le coquin saumon remonte les rivières de la côte nord et de la Gaspésie dans une fraie frénétique qui rend la pêche à cette bête aquatique fort plaisante. La pêche commerciale a toujours côtoyé la pêche sportive, qui était considérée comme un loisir noble et sain, dès l'arrivée des premiers colons français. Évidemment, étant donné l'éloignement des grandes cités et l'équipement requis pour la pratique de la pêche au saumon, cette activité restait l'apanage quasi exclusif des plus nantis, soient les éléments les plus productifs de la société. La pêche au saumon sauvage a culminé à l'âge d'or industriel, alors que les Van Horn, les Allen, les Molson, ainsi que de prestigieuses familles américaines telles les Vanderbilt ou les Astor, aménageaient d'immenses et splendides clubs privés le long des rivières les plus giboyeuses de notre arrière-pays. Un insigne honneur, s'il en est, que de recevoir chez nous de si grands bâtisseurs. Évidemment, comme dans toute belle histoire, il y a un côté plus sombre à l'affaire. Les Autochtones ont toujours été réticents à partager cette délicieuse ressource avec leurs semblables au visage pâle. Dans un futur proche, en 1981, au sommet d'une crise qui perdurera depuis de trop longues années, il faudra même envoyer les forces constabulaires sur la rivière Ristigouche, en Gaspésie, démanteler filets, couler embarcations et détruire tous les stocks pêchés illégalement par les Micmacs. Tant de délectables darnes de saumon, beurre nantais, à la poubelle, un véritable péché. C'était la Minute Coloniale, présentée par les Apatrides Anonymes.
En quoi 11 émissions, donc on garde le rythme. Encore une fois, un événement aussi insolite que réel, qui est connu sous le nom de la crise du saumon de Restigouche. Ça s'est bel et bien produit. Il y a eu 500 agents de la SQ le 11 juin 81 qui sont rendus dans la communauté Micmac le long de la rivière Restigouche en Gaspésie pour effectivement détruire non seulement les équipements, les filets, les congélateurs, etc., mais aussi pour détruire le saumon qui avait déjà été pêché carrément. Là. Donc, saumon frais, saumon congelé, saumon en pièces, tout détruit, quand même hallucinant. Évidemment, on a eu du beau travail policier qui s'est accompagné de brutalité, d'insultes racistes, d'insultes dégradantes envers les femmes Micmac, de tout ça devant les enfants. Cette intervention policière, qu'on pourrait qualifier de militaire, avait été commandée par le ministre péquiste Lucien Lessard, donc ministre du gouvernement de René Lévesque, des loisirs, de la chasse et de la pêche. Cette attaque du 11 juin 81 a été plus ou moins le sommet d'une crise beaucoup plus longue. Il y avait eu des séries d'actions, des revendications autochtones sur le droit, entre autres, à la pêche de subsistance. Donc, crise qui avait pas commencé en Gaspésie, mais de l'autre côté, en Côte-Nord, où on trouve aussi beaucoup de communautés autochtones et aussi beaucoup de rivières à saumon. Faut dire que bafouer les droits des communautés autochtones en matière de pêche au saumon, ça date pas d'hier, ça date carrément du régime français. Ça a considérablement augmenté avec la Confédération pour atteindre un niveau presque total avec les clubs privés de grosses familles riches canadiennes et américaines, où c'est carrément des rivières à saumon complètes qui sont interdites de pêche pour les Autochtones. Parfois, on autorise quelques miettes, une petite zone en aval des clubs privés où tous les gros saumons ont déjà été pêchés. Si on veut placer ça dans un contexte encore plus large, il faut se rappeler que l'animal... En gros, là, l'animal est un enjeu central dans le génocide autochtone. Je vais y aller d'une affirmation un peu grosse, mais je dirais que les restrictions et même les exterminations d'animaux, ça constitue une arme de guerre dans la colonisation, puisque l'animal est partie prenante et essentielle du mode de vie des communautés autochtones, ici comme partout ailleurs en Amérique. Tuer le chaînon le plus important de ce mode de vie, ça tue le mode de vie traditionnel et rend complètement dépendant les communautés. Donc ici, on a le cas du saumon. Au Canada, on a aussi eu le cas des bisons des grandes prairies, dont l'extermination s'est accélérée sous McDonald dans le but d'affamer les populations. Donc tout récemment, le gouvernement Trudeau a fait des excuses aux Inuits pour le massacre des chiens de traîneau dans les années 50-60. C'était dans le cadre d'un programme de sédentarisation forcée des populations locales et on a tué des milliers de chiens. On est toujours à l'émission des Apatrides Anonymes. On va aller en pause musicale. Ensuite, c'est qui, Mathieu, qui nous revient?
Marie-Ève avec les Actualités internationales, deuxième partie.
Parfait.
We are going to make America so great again.
Donald Trump made his first visit to Washington.
People have been maced and the police look like they're blocking them in.
No more Muslims.
These are people that nobody knows who they are.
We better be careful.
No more Mexicans.
We're going to stop it and we're going to build a wall.
You have to come in to be an American.
They're troublemakers. They're no good. We've got to take our country back, folks.
Look at this. Russian fucking passport. Sign American.
What are you doing here?
Yeah, man.
No.
You're going to understand. Break your fucking neck. You're going to understand. Put your hand down. Fire up. Keep taking it. Outsider.
No more small breasts.
What do you want your world to look like? What do you want it to be? Do you know that the wall has two sides and nobody is free? Did your mama come from Mexico? Papa come from Palestine? Seeking all through Syria, crossing all the borderlines. Let other people in. Listen to your women. Stop killing black children. Make America great again.
No more fat pigs.
Burn pigs! Keep going. Hey, hey,
you're gonna be
pushing it.
Let other people in. Listen to your women. Stop killing black children.
Toujours à l'émission, les apatrides des anonymes, c'était Pussy Riot avec la pièce, vous avez reconnu, Make America Great Again, assez sympathique comme montage, et je vais passer la parole à Marie-Ève pour sa deuxième partie des actualités internationales, on parle des États-Unis.
Oui, donc chanson sympathique et tout à fait de circonstance. À la mi-juillet, je ne sais pas si vous avez rappelé, aux États-Unis, il y a eu, en tout cas, on avait annoncé une vaste opération devant permettre d'arrêter 2000 migrants. Cette opération-là avait généré une large mobilisation avec des marches de solidarité à travers le pays, même que la quasi-totalité des maires démocrates concernés par cette série de raids-là avaient alors affirmé qu'ils refuseraient de collaborer avec l'agence de l'ICE, qui est l'équivalent américain de l'Agence canadienne des services frontaliers. Pour ce faire, ils ont notamment incité les personnes migrantes sans papier à prendre connaissance de leurs droits afin d'entraver le travail des agents de l'ICE, mais qui n'ont pas les mêmes pouvoirs que les policiers, en fait, là. Et conseillant aussi aux personnes migrantes de ne pas ouvrir leurs portes au service de l'ICE, sauf si les agents se présentaient avec un mandat délivré par un tribunal, et aussi de ne rien dire ou de ne rien signer sans la présence d'un avocat. Or, on a appris dernièrement, dans un reportage de The Intercept, qui est un média spécialisé en journalisme d'enquête aux États-Unis, que l'Agence de contrôle de l'immigration américaine déploie des tactiques de surveillance de plus en plus déloyales, en fait, face aux personnes migrantes. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que un mandat d'expulsion qui est délivré par cette agence suffit pas aux agents pour qui travaillent là, pour pénétrer chez quelqu'un sans son consentement avant de procéder à son arrestation. Il y a seulement un mandat d'arrêt signé par un juge qui les y autorise. Sauf que, profitant de la confusion entre ces différents documents-là, les agents de l'ICE procèdent régulièrement à des arrestations en se faisant passer pour la police, car la loi ne leur interdit pas d'user de ce type de stratagème-là. Les deux tactiques, vous vous demandez sûrement c'est quoi les tactiques les plus communes là, qui sont utilisées pour s'introduire chez des personnes soupçonnées de ne pas avoir de papier. En fait, les descentes aux aurores en s'identifiant sur le palier au gris de police et le port de veste et de t-shirts similaires à ceux des forces de l'ordre, ce qui accentue la confusion là, des personnes en fait qui sont victimes de ces descentes-là. Les agents font aussi usage de techniques comme montrer la photo d'une personne inconnue à la personne soupçonnée en prétendant devoir vérifier que personne ne correspond à cette description-là à l'intérieur du domicile pour pouvoir procéder à une arrestation. Mais le problème, c'est que toutes ces ruses-là sont devenues de plus en plus connues grâce aux organisations de défense des droits des personnes migrantes. Alors là, la police locale est devenue aussi moins encline à coopérer avec l'agence. Donc là, l'ICE use de techniques de plus en plus élaborées. Par exemple, l'année dernière, dans l'État de New York, il y a un agent qui s'est fait passer pour quelqu'un qui travaillait au cabinet d'un procureur local pour convenir d'un rendez-vous avec une personne dans un lieu public où l'arrestation serait plus facile. Un autre agent a prétendu au téléphone vouloir rendre une pièce d'identité perdue pour attirer la personne suspectée. Ou encore plus récemment, on l'a vu là, entre autres sur, je pense, des images de CNN, il y a un agent qui a cassé la fenêtre de la voiture d'un homme à un feu rouge pour pouvoir l'arrêter après que celui-ci eut refusé de sortir, et ce, sans présenter de mandat, selon le principal intéressé. Donc, il y a aussi la surveillance qui semble être une approche de plus en plus fréquente. Par exemple, il y a Palantir, qui est un logiciel qui a été cofondé par Peter Thiel, qui est un milliardaire et conseiller de Trump. Sûrement que je vais vous en parler à un moment donné de ce logiciel. Permet aux agents de ICE sur le terrain d'accéder facilement à des données, évidemment, sur les personnes ciblées, incluant des photos du permis de conduire, les relations familiales et l'historique de leur parcours d'immigration. Ou encore, les agents vont suivre des personnes migrantes, les arrêter alors qu'elles se rendent au travail. Ils vont être également plus présents dans les tribunaux lors d'audiences en immigration, pas tellement pour procéder à des arrestations que pour surveiller et identifier visuellement des personnes. Par exemple, à New York, les arrestations à l'intérieur et autour des salles d'audience ont augmenté de 1700% entre 2016 et 2018. Autre phénomène, on assiste à un nombre accru d'arrestations qu'on pourrait qualifier de collatérales, c'est-à-dire que d'autres personnes présentes sur les lieux sont également arrêtées en même temps que les personnes initialement ciblées. Bon, on le sait, les États-Unis ont le plus grand système de détention et d'expulsion au monde, là, ou à peu près, et des sommes colossales sont allouées à ce système-là. Depuis sa création, les dépenses de l'ICE ont augmenté de 103%, passant de un peu plus de 3 milliards de dollars en 2003 à près de 7 milliards de dollars en 2019. Donc, tout ça, c'est une entreprise qui est très coûteuse, en fait, pour arrêter des personnes sans papier qui n'ont commis, en fait, qu'une seule infraction civile et non un crime, ce qui est à dire d'ignorer leur avis d'expulsion.
Merci. C'est la fin de cette émission riche en contenu des Apatrides de Zananim. Oui, on avait beaucoup de stock aujourd'hui, vraiment beaucoup de stock. Réécoutez-la plusieurs fois pour tout enregistrer ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc, merci à Simon, merci à Marie-Ève, c'est Mathieu qui vous parle.
Merci Mathieu pour l'animation.
Ça fait plaisir. Donc, choc.ca, la page des Apatrides, ou notre site apatridesanonymes.info. On se reparle dans quelques semaines. On vous confirmera ça sur notre page Facebook. Allez faire un tour. Mais on va être surtout là en octobre, en retour en force. Donc, à très bientôt.